Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Sur FM+, c'est la rentrée, c'est la première semaine de la reprise de nos émissions, hein, 10-10 pour une fois consacré au sport, le sport qui n'est pas forcément un des sujets les plus écoutés, entendus, parlés sur l'antenne de FM+, c'est d'ailleurs parfois un reproche qu'on peut nous faire, et aujourd'hui on accueille Jean-Pierre Faye qui est le président de l'association Sport Culture 21e siècle, hein, je crois qu'il faut le dire comme ça. Elle fait quoi cette association? Elle vient d'où? Parce qu'on y est au 21e siècle. Bonjour Jean-Pierre déjà, et bonne année.
Bonjour Jean. Alors en fait, c'est une association qui relève du 20e siècle, puisque l'origine... C'est un colloque que j'avais pu organiser au Sénat, dans la magnifique salle Clémenceau du Sénat, en 2012. Et en 2012, on reprenait un petit peu certaines idées du XXe siècle qui avaient permis de mettre en synergie le sport et la culture dans l'accompagnement éducatif.
D'accord, c'est des idées de l'éducation populaire, c'est des idées un peu qui viennent de tout ce monde-là.
De l'éducation populaire essentiellement, parce que aujourd'hui, je considère que le périscolaire et un périscolaire musclé est quelque chose qui est absolument indispensable pour les enfants du 21e siècle. Parce que aujourd'hui, dans la grande chaîne de l'éducation des enfants, en complément de l'acquisition des savoirs,
de l'éducation nationale,
qui sont dispensés dans les établissements scolaires, il y a la nécessité de développer des qualités que l'on va trouver dans des activités sportives, dans des activités culturelles. Parce que les quartiers des villes, les villages, sont équipés maintenant d'équipements scolaires, d'équipements sportifs et culturels de qualité, dans lesquels on va développer les qualités qui sont indispensables pour les enfants du 21e siècle. J'en cite quelques-unes.
Oui, parce que c'est quoi ces qualités?
C'est la concentration, c'est le dépassement de soi, c'est le travail en équipe, c'est le respect de soi, le respect des autres.
Des valeurs.
Mais bien évidemment, c'est la confiance en soi, telle que le définit très bien Hannah Arendt. C'est l'adaptation à des lieux différents, l'adaptation à des environnements différents. Et toutes ces qualités-là, qui sont indispensables pour la création, pour la démarche créative, on va les trouver un petit peu à l'école, c'est vrai, mais essentiellement dans les activités sportives et dans les activités culturelles.
Et j'allais dire dans la famille aussi, non, quand même?
Dans la famille, bien évidemment. Mais le rôle de la famille est essentiel dans des milieux un petit peu aisés, dans des milieux beaucoup plus délicats, beaucoup plus difficiles, où le papa est au chômage, où la maman est en difficulté aussi. La puissance publique, qui est représenté effectivement par l'école, mais aussi par la collectivité,
doit épauler la famille.
Complètement. Et si on veut que cet écart qui grandit de plus en plus entre les enfants des milieux un peu aisés et de ceux qui sont un peu difficiles arrête d'augmenter, il faut absolument jouer sur cet aspect-là. Et le périscolaire, pour les enfants de CM1, CM2, si je dis CM1, CM2, c'est parce que c'est bien évidemment les mairies qui ont la possibilité d'enclencher ce périscolaire musclé, puisqu'après, en sixième, ça ne relève plus de leur responsabilité.
Alors, musclé, ça veut dire parce qu'il va y avoir du sport, ou c'est parce que c'est il doit avoir de l'ambition, ce périscolaire?
Je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir des horizons de résistance vis-à-vis de ce qui a été figé à un moment donné. Dans le petit ouvrage dont on parlera dans quelques instants, je présente quelques exemples. Mais surtout, j'explique qu'il y a la nécessité d'ouvrir ces horizons vis-à-vis des enfants des enfants du 21e, parce que, comment dire, s'attacher à un strictement à ce qui relève donc de l'acquisition des savoirs, c'est une faute. C'est une faute qui va, qui a pour conséquence les enfants eux-mêmes, hein, qui perdent leur leur art de vie, qui perdent la possibilité de construire leur propre art de vie. Mais c'est une faute aussi au niveau de l'État, parce que le président chinois disait il y a une dizaine d'années que dans la compétition des nations, celle qui serait au sommet, ce serait celle qui aurait eu la capacité de faire émerger le maximum d'enfants créatifs. Et les enfants créatifs, certes, ils peuvent être issus, et ils sont issus du système classique, de celui pour lequel nous, parents, grands-parents...
L'école républicaine.
On met les enfants voilà, sur un tapis, c'est l'école, et s'ils mettent le pied à côté... Oh non, non, attention, on te remet dessus. Mais les enfants qui ont la capacité de marcher un peu à côté, et c'est vrai que je travaille depuis plusieurs années avec ces enfants-là, ils ont une démarche créative qui est plus, qui est beaucoup plus efficace et qui arrive très naturellement parce qu'ils ont l'habitude dans leur tête de travailler autrement que de répéter ce qu'on leur a appris.
Alors, quelques exemples là, pour qu'on comprenne mieux. C'est pas dans le temps scolaire, c'est dans le périscolaire. Pour autant, ça peut s'inspirer de méthodes de type Freinet ou Montessori. Ou, enfin, voilà. Il y a des passages là, mais est-ce qu'on a quelques exemples sur Montpellier, par exemple?
Alors, c'est ce que nous mettons en œuvre sur Montpellier depuis un certain nombre d'années, depuis 2020. Donc voilà, c'est la sixième année. On a débuté un petit peu cette approche au Creps de Montpellier pendant 2 ans. On a essayé de récupérer des enfants qui étaient des potentiels décrocheurs scolaires ou relationnels. On a donc demandé à un certain nombre de directeurs d'école sur Montpellier de nous flécher un petit peu ces enfants-là, et en accord avec les parents, bien évidemment. On a récupéré ces enfants au Creps. Nous leur avons apporté des approches. Alors sportives, c'était facile. On avait des champions olympiques qui étaient autour de nous, donc c'était parfait. Et culturelles aussi, on a fait venir des gens comme Mitya Fedotenko, pour des gens de la danse de Montpellier. Et on a cherché à repérer les centres d'intérêt de ces enfants. Parce que la clé
qu'est-ce
de tout
qu'est-ce
ça,
qui les faisait
c'est
bouger.
Le centre d'intérêt. Exactement. Et ces centres d'intérêt-là, le soir de ces journées-là, ils étaient téléphonés à la responsable d'une école qui avait accepté de venir, etc. Et on lui a dit, essayez de partir de ces centres d'intérêt-là. Et on a vécu des moments magiques où on m'avait indiqué, où les directeurs d'école m'avaient dit, « Oh, ces enfants-là, allez, vous les tiendrez 5 minutes sur la chaise. On est au mois de juillet, là. » Ils restaient 3 heures sur la chaise. Parce qu'on partait de ce qu'ils avaient fait, de
vous
ce qu'ils avaient
capté
émergé.
Leur attention.
Exactement. Alors, bon, un exemple qui me vient en tête là, mais qui est assez caractéristique, ils avaient croisé un champion olympique de judo qui leur avait présenté ses médailles, qui leur avait présenté le drapeau olympique, etc. Et le lendemain, parce que la maîtresse avait été
informée,
elle est venue avec le drapeau. Et à ce moment-là, elle leur a dit, « Voyez, il y a des couleurs, là. » Les couleurs, vous savez, ça représente des continents. Ah bon, c'est quoi un continent? Et le cours de géographie était parti. Et pendant 1 heure, ils ont été merveilleusement attentifs. Voilà, c'est rouge parce que c'est l'Amérique, parce qu'il y a des Indiens. Et voilà, voilà. Et donc, tout est conçu sur ce principe-là. Le périscolaire doit permettre de retrouver ou de trouver l'envie d'apprendre, au-delà des qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. L'envie d'apprendre, c'est la clé. C'est ce qu'Edgar Morin explique très bien à travers 2 mots qui permettent d'y arriver, la passion et la curiosité. Et c'est ce que le périscolaire doit être en capacité de mettre en œuvre. D'où le périscolaire musclé.
Ok, mais alors ça suppose des moyens de la collectivité importants, parce que faire vivre ces activités culturelles et sportives autrement que ce qu'on pourrait appeler du gardiennage entre, je sais pas, 16h et 18h, ça nécessite un personnel très qualifié.
Alors, ça nécessite un personnel...
Et surtout du lien intime avec le monde associatif et culturel et sportif de la cité.
Tout à fait. Et c'est bien le rôle de ces animateurs périscolaires qui jouent déjà, qui ont déjà une mission qui est tout à fait intéressante, parce que ils accompagnent les enfants dans les créneaux horaires que tu viens d'indiquer. Mais ils ont la capacité, à condition qu'on leur amène un plus en matière de formation, d'aller vers ce lien de partenariat qui doit être mis en œuvre avec les associations culturelles, avec les clubs de sport, avec les médiathèques, avec les maisons pour tous. Ils ont cette volonté-là. Quand je discute avec eux, parce qu'ils sont déjà en place, on a la chance sur Montpellier comme sur Paris d'avoir 6-7 animateurs au niveau de chaque école dans le cadre de ce périscolaire. Pourquoi on ne profiterait pas de ces personnes-là qui ont ces capacités, qui ont le BAFA, qui ont les bases minimum pour pouvoir jouer ce rôle-là, pourquoi on ne s'appuierait pas sur eux? Et là, ça revient à dire qu'en termes financiers, mais ils sont déjà financés. Ils sont déjà financés. Alors certainement par les associations et qui ont répondu au marché et qui ont amené ces enfants-là dessus. Alors, et il y a systématiquement un responsable d'éducation périscolaire qu'on appelle soit REP, soit REM en fonction de l'un, et qui est dans chaque école et qui peut également initier cette démarche-là. Donc en termes financiers, ces gens-là, ils sont déjà financés, je vais en dire en grande partie, puisqu'il suffirait d'augmenter un petit plus sur leur rémunération pour leur amener encore plus de respectabilité.
Ah oui, donc ça c'est un vrai, ça reste donc quand même un sujet économique, et ça reste, vous le dites, un sujet de formation, parce que bien qu'ayant le BAFA, on n'est pas forcément artiste ou attiré soit par un sport, soit par une activité artistique particulière. Et donc, là-dessus aussi, il faut éveiller ces personnels à ces questions.
Alors, éveillés, ils le sont, mais ils n'ont pas la possibilité d'aller au-delà, je pense, de ce qu'on leur demande, parce que le carcan est ce qu'il est. Alors, après en avoir discuté quelque peu avec Edgar Morin, que j'ai eu la chance de côtoyer à un moment donné, même si sur Paris, c'est plus difficile en ce moment, encore que, j'arrive encore à avoir des retours de sa part dans les heures qui suivent, quand je lui envoie un petit message.
Non, donc, je lui propose... Un des chanceux qui est en lien avec Edgar Morin.
Alors, indirectement, par une personne interposée, l'ami d'un ami, voilà. Et donc, ce que je lui ai proposé, c'est de reprendre le terme magnifique qu'il avait mis en œuvre dans un certain nombre d'ouvrages, dont « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Et je lui ai dit, quand vous parlez de ces personnels-là, vous parlez souvent d'opérateurs de reliance. Et je lui ai dit, je voudrais prendre...
C'est joli, mais c'est un peu techno quand même.
Peut-être, mais ensuite il faut décrire. Ouais. Ces animateurs peuvent être des opérateurs de reliance. Ils doivent être des opérateurs de reliance qui relient les clubs sportifs, qui relient les associations culturelles, les médiathèques, donc au sein d'un même quartier, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le fameux proverbe wolof, qui dit Oula. Il faut tout un village pour éduquer un enfant, ça c'est valable dans les villages, mais dans les villes, il suffit de dire il faut tout un quartier pour élever un enfant. Quand je parle d'équipement sportif et culturel, comme on a la chance sur Montpellier, comme sur d'autres villes, d'avoir ces équipements-là dans les quartiers, c'est avec ces équipements là qu'il faut jouer. Le déclic, l'envie d'aller vers une passion sportive, vers une curiosité qui est au niveau des médiathèques, c'est sur le quartier que ça se joue, c'est pas à Diborn.
Alors revenons un peu sur cette association Sport Culture 21e siècle. 6000 contacts et adhérents, un peu plus de 1000 adhérents actifs. Comment ça fonctionne? Vous échangez, vous réunissez, vous êtes un peu partout en France?
Alors en fait, j'édite tous les mois une lettre qui s'appelle Sport Culture 21e, dans laquelle j'essaye d'avoir à la fois une approche un petit peu philosophique, mais surtout où je présente des actions qui sont menées sur le terrain. Je n'ai pas décrit encore très précisément, mais on le fera peut-être tout à l'heure, sur ce que nous faisons sur les quartiers de Montpellier, parce qu'après le CREPS, bien évidemment, on est passé au niveau des écoles, et on a démarré sur le quartier de la Croix d'Argent, et ensuite on est donc passé sur la Paillade, en même temps que la Croix d'Argent d'ailleurs. Et donc cette démarche-là, elle est aujourd'hui en place et elle fonctionne.
Elle fonctionne sur Montpellier, mais les exemples que vous donnez dans votre lettre, ils inspirent un certain nombre de personnes dans d'autres territoires. Vous avez d'autres personnes avec qui vous êtes en lien permanent pour échanger justement sur ces modes de faire un peu différents.
Alors, effectivement, c'est un des buts, c'est qu'on puisse diffuser. Mais j'ai le match retour, si je peux me permettre. Lorsqu'il y a des belles actions qui mettent en synergie le sport et la culture sur le territoire national, elles me sont envoyées par les 1200 personnes. Oh là, alors, j'en ai que quelques. Enfin, j'ai 2-3 actions tous les mois qui m'arrivent. Et donc, je mets en œuvre une écriture qui permet de les valoriser sur cette lettre qui me paraît tous les
D'accord,
tous les
donc vous donnez à voir un peu ce qui se passe à Montpellier, évidemment, mais bien au-delà, dans un certain nombre de villes, au travers des échanges que vous avez avec vos correspondants.
Tout à fait. Surtout sur les déclinaisons architecturales, urbanistiques et éducatives qui sont issues de cette démarche-là. Et donc, lorsque, par exemple, une école est donc, se crée avec ce qu'on appelle une pièce forum, c'est-à-dire une pièce où on va pouvoir développer ses activités périscolaires, la personne qui travaille sur ce projet-là me l'envoie et je le valorise, bien évidemment, à l'échelle nationale.
Alors, je reste encore sur ce réseau national, ces échanges nationaux. Quand on est au niveau, j'allais dire, de la France, à un moment donné, on a la tentation de faire un peu lobby, d'essayer d'influer sur les politiques au niveau national. C'est aussi un des rôles de l'association que d'essayer au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des ministères, du gouvernement, de faire un peu bouger les lignes. Ce que vous dites sur le périscolaire, c'est très encadré par la loi, c'est de la compétence des communes qui y mettent des moyens, mais c'est aussi un dispositif qui est, j'allais dire, corseté, en tout cas qui est encadré au niveau national. Vous voulez le faire bouger ?
Bien évidemment qu'il faut le faire bouger. Quand je parlais tout à l'heure d'ouvrir des horizons de résistance, c'est bien évidemment par rapport à ce qui est figé. Au niveau de l'éducation nationale, je me souviens de cette expression de Vincent Peillon,
qui disait, fut ministre il y a longtemps.
Il y a longtemps, ministre de l'Éducation, et il disait effectivement, si vous voulez rester plus de 2 mois en tant que ministre de l'Éducation, vous avez une chose à faire, vous vous asseyez dans votre bureau, dans le ministère, et vous ne proposez aucune orientation nouvelle. Bon, c'est un petit peu figé, cette éducation. C'est vrai, c'est un petit peu figé sur le fonctionnement, même si au niveau...
On revient pas sur le mammouth. Hein.
On ne revient pas sur le mammouth. Mais par contre, à l'opposé, quand je vois la qualité des personnels qui sont sur le terrain, qui sont, eux, les hussards noirs de la République, tels qu'ils avaient été imaginés par Ferry à un moment donné, c'est fabuleux ce qu'ils font. Et ils se battent tous les jours. Ils se battent avec des normes qui arrivent, soi-disant normes, mais qui sont des... etc. Donc, je sais que ça sera difficile à ce niveau-là de faire bouger les choses. Donc, je pars du principe que c'est dans le périscolaire qui est de la responsabilité des municipalités qui a la moyen d'apporter ce plus dont les enfants vont avoir besoin pour aller vers cette créativité dont on parlait il y a quelques instants. Après, au niveau national, je fais des conférences autant que je le peux, quand on me le demande, ici ou là, à Bordeaux, à Limoges, etc. À Limoges, c'était même une conférence internationale, donc j'ai essayé d'avoir ce discours-là, mais le retour a été un petit peu pchit, comme aurait dit Chirac. Voilà.
D'accord, donc c'est pas simple au niveau national, on va dire, de faire bouger les lignes. Donc c'est au travers d'une kyrielle, d'une multitude d'expériences documentées qu'on peut voir sans doute changer les choses à Montpellier et ailleurs.
C'est ce que je crois, de le dire, de le répéter. Et à chaque fois que j'arrive à convaincre de cette démarche-là du périscolaire musclé, une ou deux personnes, je me dis, vont peut-être le diffuser un petit peu plus. Toujours est-il que les enseignants avec qui je travaille sur cet aspect-là sont porteurs, eux, de cette démarche-là. Et c'est un plaisir énorme de
pour
ma part.
Vous,
parce
oui,
que
bien sûr.
Il y a des professeurs émérites. Moi, je suis un professeur sans mérite, hein, puisque je suis architecte urbaniste à la base, même si j'ai dirigé une école à un moment donné. C'est la diversité des métiers qui ont été les miens qui m'ont permis d'aller vers cette approche hybride. Ayant été moi-même un hybride sur ma carrière, j'estime qu'effectivement, il faut aller maintenant vers cette école hybride. Et puis, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous paraître un petit peu spécial, mais même si dans les classements PISA,
Ça, c'est les classements internationaux qui jugent les écoles, si je puis dire.
Voilà. Et on est dans les plus mauvais au niveau européen. Pourtant, je considère que en France, l'école idéale, elle existe, mais elle est en pièces détachées. Et j'ai essayé de vous démontrer que les pièces, on pouvait les relire, les relier.
Donc c'est le mode
d'assemblage. Les équipements sportifs, les équipements culturels, et peut-être aussi une notion de projet collectif, pour reprendre ce que disait Foucault.
Quelques notes de musique, on revient ensuite sur l'ouvrage que vous publiez. Radio FM+, on est dans le 10-10 jusqu'à 10h45, dans la matinale de la radio. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-Pierre Fay, le président de Sport Culture 21, ou 21e siècle, qui vient nous parler, maintenant qu'on a un peu compris ce dont il s'agissait, de l'ouvrage qu'il édite, On change la serrure. Alors bon, derrière ce titre un peu abscon, qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'il faut regarder par le trou de la serrure?
Non, je crois vraiment qu'il faut changer la clé. Je vais peut-être démarrer avec une anecdote qui a été pour moi à l'origine de ce titre-là. On change la serrure. Parce que j'étais amené à changer une serrure. Alors, c'était en 1969.
Nous étions jeunes.
Nous étions jeunes. Et on avait vécu mai 68. On était sur une démarche un petit peu révolutionnaire. Et il se trouve que donc, j'intègre l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Et je suis nommé massier. Le massier, c'est le responsable des étudiants de la promotion.
D'accord.
Et de temps en temps, il y avait une réunion entre les six massiers, les responsables des six années. Et j'étais un petit peu à l'écoute, c'est vrai. J'écoutais les anciens. Et alors, je ne sais plus s'il était en cinquième ou en sixième année, mais le massier me dit il faut qu'on vire le directeur.
Ah, ça, c'était révolutionnaire.
C'était révolutionnaire.
C'était l'époque.
C'était l'époque. Et donc. On m'annonce que ce monsieur était directeur de l'école, mais essentiellement pour faire ses projets par les étudiants de 5e et de 6e année. Et puis, il avait un autre aspect, c'est que, bon, pour lui, un architecte, c'était un monsieur. Ça ne pouvait pas être une dame. Donc, il me dit, écoute, on en a discuté un petit peu avec lui. Il s'est énervé. Il est rentré dans son bureau. Il s'est fermé à clé. Ah, il dit, mais écoute, et alors ? Ben, il dit, on a pris une décision. On va le virer, C'est, à cette époque-là, on pouvait se permettre, on était en 69. Hein. Et donc, ce qu'on va faire, je me suis arrangé avec la secrétaire, elle va nous donner la clé, on va changer sa serrure.
Et il ne pourra plus rentrer dans son bureau.
Et on ira amener cette clé alors à quelqu'un qui était à la direction départementale de l'équipement, comme on disait à cette époque-là, qui était quelqu'un qui était très ouvert sur l'architecture. Et puis on va lui proposer de prendre pendant 3 mois une dispo et qu'il vienne comme directeur de l'école. C'est vrai que ça se ferait plus trop aujourd'hui.
Non.
Il l'a fait et il est resté directeur de l'école pendant 10 ans. Donc on avait changé la serrure. Et cette démarche-là, j'avoue que j'ai eu l'opportunité de la mettre en œuvre. Alors, pas changer, c'est moi qui avais changé la serrure. Et j'étais le petit jeune, c'est donc moi qui ai eu...
On l'avait envoyé au front, au risque qu'il se fasse prendre et éventuellement qu'il se fasse virer.
Mais j'étais assez fier, de cette démarche-là. Donc ça s'est reproduit un certain nombre de fois, alors non pas, mais d'une manière plus métaphorique.
Donc c'est créer des ruptures.
Créer des ruptures. Pour ça, ouvrir des horizons de résistance. Je crois avoir employé déjà ce mot-là tout à l'heure.
Oui, parce que c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup.
Mais il le faut, surtout dans la période que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et donc, il faut ouvrir des horizons. Et c'est vrai que cet ouvrage est un petit peu dans cet esprit-là. Alors, après avoir décrit un certain nombre de petites actions, comme celle que je viens de citer là, eh bien, je suis bien arrivé, évidemment, au cœur du problème qu'on a abordé déjà il y a quelques instants, ouvrir des horizons de résistance vis-à-vis de ce qui est un peu figé, quand même, de ce qui est figé au niveau de l'éducation. Et comme on ne peut pas bouger à ce niveau-là, eh bien, il faut que ce soit au niveau du périscolaire qu'on arrive à, effectivement à cet égard. Et on peut donc, si vous le voulez bien, effectivement, décrire un petit peu ce que nous mettons en œuvre sur Montpellier, étape par étape, pour amener des enfants à être un peu plus ouverts sur une possible créativité, et je peux vous certifier que j'ai le plaisir énorme de retrouver des enfants quelquefois un petit peu sur
le fil,
un petit peu en difficulté pour prendre la parole, pour s'afficher en fin d'année de périscolaire musclé, et c'est les enseignants qui me le disent, ils me disent, mais c'est extraordinaire, quoi. Ils ont changé, voilà.
D'accord, donc vraiment c'est, et pour le coup donc vous insistez beaucoup là-dessus, c'est dans les compétences de la collectivité de stimuler, développer ce dispositif aux côtés de l'éducation nationale, mais bon, encore une fois, ça suppose une bonne collaboration entre l'éducation nationale et les instits, pour dire les choses, pour les appeler comme on les appelle communément, avec ces éducateurs du périscolaire. Et ça fonctionne, ça ?
Alors, ça fonctionne merveilleusement, et ce sont les instits qui, eux-mêmes, me demandent chaque année, on recommence, hein ?
D'accord.
On recommence. Et parce que on a véritablement une mise en synergie d'éducation, du sport et de la culture, mais sur le terrain. C'est-à-dire que dans le périscolaire musclé dont on est en train de parler, les enseignants sont partie prenante plusieurs fois dans l'année. Et en particulier, lorsqu'il faut arriver sur le projet qui est l'aboutissement, qui se met en œuvre entre le mois d'avril et le mois de juin, ce sont eux qui sont moteurs. C'est-à-dire qu'en ayant démarré avec des animateurs tout au début d'année, les enseignants arrivent ponctuellement sur certaines animations, et en fin d'année, c'est quasiment eux qui ont pris le relais. Et je me suis toujours dit, mais... en esquissant cette démarche-là, comment les enseignants vont être partie prenante sur cette démarche ? Et dans le déroulement de l'année, quand ils se rendent compte du plus que l'on a avec ces enfants, qui pour beaucoup sont des potentiels décrocheurs scolaires ou relationnels, parce qu'on décroche qu'en sixième, hein, on décroche pas avant, je n'y crois pas du tout. Par contre, on est des potentiels décrocheurs. Ils sont partie prenante. Alors, dans les écoles où j'ai la chance de pouvoir intervenir, je ne sais pas si ça serait dans toutes les écoles de France et de Navarre, voilà. Mais toujours est-il que là où on le fait, c'est une merveille de relation avec entre les enseignants, les responsables périscolaires et les membres de l'association Sport-Culture.
Là, on parle beaucoup d'évaluation souvent des dispositifs, mais ce que vous dites là, à un moment donné, quand même, ça doit percuter, j'allais dire, l'inspecteur d'académie, comme on l'appelait auparavant. Il est attentif à ça, enfin le DAZN, je ne sais pas si c'est une ou un DAZN aujourd'hui à Montpellier.
J'en avais parlé, alors c'est une journée, à l'époque c'était un monsieur, j'en ai parlé, il m'avait dit mais c'est fabuleux ce que vous faites.
Mais encore, est-ce qu'il en avait fait quelque chose?
Il dit mais vous savez c'est compliqué chez nous. Ah. Donc à partir de là, c'est là que j'ai compris que effectivement l'éducation nationale avait ses objectifs, ses fonctionnements, tout ça, et qu'on pouvait faire à côté. Je prendrai un exemple. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur Montpellier, on le voit très bien fonctionner au niveau de la sécurité. On a les belles actions qui sont mises en œuvre dans cet objectif-là sont avec les gendarmes nationaux.
Le fameux continuum de sécurité.
Et voilà, et avec des policiers municipaux. Et quand ils se rendent sur un site, et quand ils sont en harmonie, de fait de leurs prérogatives respectives, eh bien, les choses fonctionnent. Donc on a bien là, non pas un mariage, mais une mise en synergie d'une organisation nationale et d'une organisation locale.
Donc, vous parlez
ça fonctionne.
C'est donc un esprit de coopération qui doit exister entre l'éducation nationale et ce périscolaire musclé, comme vous l'appelez. Mais justement, donc du coup, on est aussi dans un système où on a un monde associatif qui est très prolifique. Il n'y a pas encore une association des instits et directeurs d'école concernés avec un certain nombre d'animateurs pour essayer de réfléchir à être prosélytes aussi à leur tour sur davantage d'écoles dans la ville.
Eh bien, écoutez, là, moi, j'en fais le... on fait le pari, évidemment. Alors, est-ce que le petit ouvrage va y contribuer? Je l'espère. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans cette démarche-là si on ne veut pas que les enfants deviennent de simples supplétifs de l'intelligence artificielle.
Voilà, ça, c'est aussi un des risques que vous pointez. La multiplication des réseaux sociaux, l'arrivée de l'IA, fait que peut-être on peut s'enfermer dans sa propre bulle et peut-être négliger toute une série de choses que le sport et la culture pourraient permettre de développer.
Ben parce que sur le sport et la culture, l'intelligence artificielle peut jouer un peu. Mais
ne remplacera ni les sportifs, ni les artistes.
Ni les artistes. Et au niveau de l'efficacité sur les éléments dont je parlais tout à l'heure, sur la concentration, sur le travail en équipe, sur ces éléments-là, qui sont indispensables sur la démarche créative, l'intelligence artificielle apportera peu. Autant elle apporte des choses merveilleuses sur la médecine, sur le plus petit, sur le plus grand, etc. Mais sur le différent. Elle ne peut pas apporter sur le différent, puisque elle regroupe des millions d'éléments issus de la... Je termine juste sur un petit exemple qui, pour moi, est très caractéristique. Lorsque, sur les becs de gaz, il a fallu avancer, l'intelligence artificielle, si elle avait été présente, elle aurait donné une orientation du miroir différente. Mais il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Edison, qui, lui, n'était pas du tout sur le rassemblement de tout ce qu'il faisait, qui a inventé l'ampoule.
Donc ça, c'est les changements de paradigme, comme on dit.
Tout à fait.
Cet ouvrage, on le trouvera dans toutes les bonnes librairies.
Surtout chez Soramps, hein, bien évidemment.
On change la serrure, plaidoyer pour une école hybride. C'est signé Jean-Pierre Fay, le président de Sport Culture 21e siècle. On vous remercie, Jean-Pierre, d'être venu parler avec beaucoup de passion de cette affaire du périscolaire musclé. Je retiens le terme parce qu'il est un peu baroque, mais très parlant. Et on referme ce 10-10 pour ce matin. Rendez-vous demain, 10h10, sur FM+. Bonne journée. Thank you.
radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.